Europe 1. Le 25 avril 2024, les Portugais fêtent les 50 ans de la révolution des œillets, le putsch militaire qui a rétabli la démocratie. Cette révolte a été menée sans faire couler le sang, avec un œillet à la boutonnière des participants. Elle mettait fin à l'Estado Novo, l'État nouveau, un demi-siècle de salazarisme, un régime autoritaire et nationaliste inclassable tant il est singulier, ni vraiment fasciste, ni vraiment totalitaire. Ce régime original repose tout entier sur les épaules d'Antonio de Oliveira Salazar, un professeur d'économie surdoué venu du petit peuple, un travailleur acharné qui a dédié sa vie à la nation portugaise en échange de sa soumission. Salazar laisse un héritage contrasté. Il est encore aujourd'hui le personnage historique le plus aimé et le plus détesté du Portugal. C'est l'étrange dictature imaginée par un universitaire que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Salazar, la dictature portugaise des professeurs. Épisode 1, Monsieur le Docteur. Nous sommes à Braga, au Portugal, le 28 mai 1936. Le professeur Antonio de Oliveira Salazar, le président du Conseil des ministres, l'homme le plus puissant du Portugal, se tient sur un balcon d'un bâtiment public de la ville. En contrebas, la place est noire de monde. La télévision est là. Salazar, la cinquantaine, mince, l'air sévère, ne souriant pour ainsi dire jamais, déteste les grandes messes publiques. Il n'a rien d'un orateur populiste en mal d'applaudissements, contrairement à Hitler ou à Mussolini. Le culte de la personnalité ne l'intéresse pas. Tout ce qui compte pour lui, c'est la grandeur du Portugal. Tout ce qu'il entreprend sert les intérêts de sa nation. Et s'il faut de temps en temps en passer par les grands discours, ma foi, il faut bien se forcer un peu. Surtout qu'aujourd'hui, on célèbre les 10 ans du coup d'État de 1926, quand l'armée a mis fin à la Première République, un régime instable et corrompu qui s'employait, entre autres, à détruire la foi en Dieu, un péril mortel pour Salazar, qui se sent investi d'une mission divine. Enfin, les caméras commencent à tourner. Salazar s'approche des micros. Il est entouré de ses ministres et de militaires, des hommes pour qui il a la plus haute estime. Il n'aime que les hommes intelligents et compétents. Il tient entre ses mains les feuilles sur lesquelles il a rédigé un discours concis et commence à lire avec l'énergie de ceux qui sont convaincus par leurs propos. Il rappelle les valeurs qui doivent unir la nation et fédérer tous les Portugais. Sa voix est un peu aiguë, il n'a pas les modulations théâtrales d'un Joseph Goebbels. Salazar est un homme sérieux, serein et autoritaire, soucieux d'imprimer sa doctrine dans la tête du peuple. Je le cite. Aux âmes tourmentées par le doute et la négativité du siècle, nous cherchons à rendre le confort des grandes certitudes. Nous ne discutons pas Dieu et la vertu. Nous ne discutons pas la patrie et son histoire. Nous ne discutons pas l'autorité et son prestige. Nous ne discutons pas la famille et sa morale. Nous ne discutons pas la gloire du travail et ses devoirs. Et il conclut ainsi avec ce pragmatisme qui le caractérise. La philosophie et les philosophes, ou les rêves des rêveurs, ne valent rien face à ces réalités. Cette allocution est considérée encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux discours de droite nationaliste partout en Europe. Antonio de Oliveira Salazar est né en 1889 dans une modeste maison de Vimiero, un petit village du centre du Portugal. Le mode de vie des paysans ressemble alors à celui des Français du XVIIIe siècle. La majeure partie de la population est illettrée. Le Portugal n'a pas fait sa révolution industrielle. Ce tout petit pays coincé à l'extrême occident de l'Europe, cerné par l'Espagne, a été l'un des premiers à se constituer en nation au XIIIe siècle après avoir achevé précocement sa reconquête contre les Arabes. Sa position géographique le pousse à se tourner vers l'océan. Vasco de Gama, Magellan, ces navigateurs ont révolutionné la connaissance des mers et participé à la fondation d'un empire ultramarin sur 4 continents. le Portugal est une puissance coloniale majeure dès le XVIe siècle. Mais comme ses richesses viennent de ses colonies, le royaume néglige son développement interne. L'indépendance du Brésil en 1822 est une catastrophe économique que les nouvelles colonies africaines en Angola et au Mozambique ne compensent pas. Le Portugal s'appauvrit, alors que l'Angleterre, la France puis la Russie s'engagent tour à tour dans leur lucrative révolution industrielle. À l'aube du XXe siècle, le pays est donc très pauvre par rapport à l'Angleterre ou à la France. Dans un tel contexte, le jeune Antonio aurait pu devenir un modeste paysan. Mais sa mère, qu'il aime par-dessus tout, pressent son potentiel et tient à lui donner une bonne éducation. Dès l'âge de 11 ans, Antonio est envoyé au séminaire de la ville de Viseu, dans le centre du pays, où il étudie et développe une foi profonde en Dieu. Il se rêve même prêtre. Mais les événements politiques de 1908 vont changer son destin. Les républicains portugais, manifestement portés par le carbonarisme, une société secrète et politisée à gauche, fomentent un coup d'État contre le roi Carlos Ier de Portugal et son héritier. Ceux-ci sont tous les deux assassinés. Le fils cadet du roi monte sur le trône, mais Manuel II, qui a 19 ans, comme Salazar, n'a pas les moyens de faire face à la colère qui gronde dans son pays. Une révolution en 1910 l'oblige à s'exiler. La Première République, instable et brouillonne, arrive au pouvoir. Les manifestations populaires incessantes empêchent la continuité de l'action politique du gouvernement, dont le bouc émissaire est le clergé. Des prêtres sont persécutés. Le jeune Salazar ne cautionne pas cette violence et les attaques répétées contre l'Église. Il publie ses premiers articles dans la presse pour la défendre, alors qu'il commence des études de droit et d'économie à la prestigieuse université de Coimbra, qui forme l'élite du pays. Pendant ses années de formation, il acquiert la certitude que les valeurs cardinales des Portugais doivent être Dieu, la patrie et la famille. Il soutient sa thèse de doctorat d'économie politique et financière en 1918. Salazar est désormais un érudit et un travailleur infatigable, soucieux de l'avenir de son pays au bord de la guerre civile. Alors qu'il commence une carrière de professeur à l'université, Salazar continue à écrire dans la presse pour défendre ses idées politiques et économiques. Ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse, mais le rétablissement de la grandeur du Portugal, de son âge d'or, tel qu'il l'imagine entre le XIIIe et le XVIe siècle. L'instabilité politique est toujours le terreau fertile des coups d'État. En 1926, le général Gomes da Costa mène depuis la ville de Braga un putsch contre la Première République. Son orientation idéologique est mal définie, mais une chose est certaine. Il prépare une nouvelle république aux allures de dictature. Toutes les institutions démocratiques sont dissoutes. Le nouveau gouvernement militaire tient à nommer trois hommes issus de la société civile pour leur connaissance en économie, car il est urgent d'améliorer les finances désastreuses du pays. Salazar fait partie des élus. Après 5 jours au gouvernement, il fait part de son diagnostic. On ne peut pas assainir la situation économique du pays tant que les problèmes politiques ne sont pas réglés, et ça, ce n'est pas de son ressort. Alors il rentre à Coimbra. Mais Salazar garde désormais un œil sur les affaires politiques et se rend souvent à Lisbonne pour participer à des commissions. Il est même élu député du Centre catholique portugais, mais ne tient pas plus d'une journée dans l'hémicycle. C'est à cette époque que le professeur se met à détester le parlementarisme. Selon lui, les grands débats de la Chambre législative, où chacun vocifère, sont stériles et nuisent à la nation. Pour lui, les partis politiques ne devraient pas exister. À force d'être courtisé par le gouvernement, Salazar accepte le poste de ministre de l'économie en 1928, mais il y met des conditions. C'est lui qui délimite le champ d'action des autres ministères. Toutes les décisions des autres ministères qui engagent des dépenses publiques devront être validées par lui. En tant que ministre des Finances, il pourra mettre son veto sur toutes les décisions prises par les autres ministères. Et enfin, c'est lui qui supervise tous les autres ministères pour harmoniser les politiques budgétaires. À 39 ans, Salazar, ministre de l'économie, s'impose en réalité comme chef absolu du Portugal par le prisme de la finance, comme le père de famille supervise son foyer. Encore une fois, ce n'est pas le pouvoir qu'il stimule, mais l'envie de se mettre au service de son pays et de rationaliser son fonctionnement. Il pense sincèrement qu'il est le seul à pouvoir le faire et même qu'il réalise le projet de Dieu pour sa nation. Salazar s'impose en dictateur intellectuel et s'entoure de ministres qui ne sont pas toujours en accord avec lui, mais qui sont compétents et acceptent surtout sa politique générale. En 1932, le super-ministre devient le président du Conseil des ministres, ce qui semble plus logique car il était déjà de facto le chef du gouvernement. Il élabore alors une nouvelle constitution qui fixe le cap du renouveau politique de la nation portugaise. La constitution de cette deuxième république, l'Estado Novo, l'État Nouveau, est approuvée l'année suivante, en 1933, lors d'un vote du peuple. À cette occasion, les femmes portugaises votent pour la première fois, mais il ne s'agit que d'un droit ponctuel. La validation de la constitution de l'Estado Novo démontre à Salazar qu'il a le soutien de l'armée, de la majorité du peuple et de l'Église. Il est le nouveau héros du Portugal, un héros sérieux qui ne sourit jamais. Maintenant, du point de vue de l'historien, le plus compliqué est de définir l'Estado Novo. Ce n'est pas vraiment un fascisme, puisqu'il n'y a pas de culte de la personnalité ni de velléité expansionniste. Ce n'est pas vraiment un totalitarisme non plus. Certes, il n'y a pas de parti d'opposition, mais il n'y a pas de parti unique non plus. L'Union nationale de Salazar n'est pas conçue comme un parti politique, mais comme le groupement de toutes les bonnes volontés déterminées à œuvrer pour le bien de la nation. On y trouve des monarchistes, des républicains nationalistes, des conservateurs, des démocrates chrétiens, c'est-à-dire tout sauf la gauche, même s'il y a chez les démocrates chrétiens une dimension socialiste que Salazar ne renie pas. Finalement, l'Estado Novo, c'est une dictature autoritaire dans la mesure où Salazar dispose de tous les pouvoirs. Dans les faits, l'autorité et les décisions du chef du gouvernement peuvent être contestées par le président de la République. Sauf que le président est désigné parmi les proches collaborateurs politiques de Salazar et que s'il s'oppose à lui, il ne sera pas représenté à l'élection suivante. En gros, le président est là pour inaugurer les chrysanthèmes et le vrai chef du pays, c'est le Premier ministre. Pour résumer ce qu'est ce régime unique, ce que les historiens qualifient d'exception portugaise, on peut dire que l'Estado Novo est une dictature antilibérale, anticommuniste et antidémocratique, conservatrice et intégriste, avec une petite dimension socialiste qui essaye de trouver sa propre voie économique au service de la nation portugaise unifiée autour d'une histoire commune et de valeurs communes, Dieu, patrie, famille. Le Portugal de Salazar ne se réduit pas à sa métropole. C'est un empire ultramarin et multiracial. En d'autres termes, c'est un empire colonial que le nouveau dictateur va moderniser et faire entrer dans le concert des nations. Le professeur de Coimbra, issu d'une famille pauvre, est à la tête de son pays pour le meilleur et pour le pire. Mais la politique internationale va venir bousculer son agenda. Alors que la Seconde Guerre mondiale se prépare, Salazar doit déterminer la place du Portugal dans le conflit. Hitler ? Ou Churchill? Lequel des deux le dictateur va-t-il choisir? La suite, dans le prochain épisode. À très vite.